Alors, oui, c'est ça. Merci d'être là à la Société des gens de lettres. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour François Mauriac. François Mauriac, voilà, la dernière fois, Mario Vargas Llosa était là, François Mauriac ne sera pas là, mais nous avons François Taillandier et François Négret qui va lire, très bel acteur, qui va lire Un adolescent d'autrefois, qui est le dernier roman de François Mauriac. Je voudrais remercier beaucoup la SGDL Jean-Claude Bologne, Christina Campodonico, Evelyne Pradillo. Je voudrais remercier la présence d'être là. Je voudrais remercier Maria Riedelberg-Lemoine de l'Institut suédois d'être là. Je voulais remercier la SOFIA qui fait en sorte que cette soirée puisse avoir lieu. Je voudrais remercier Carandache et je voudrais remercier le Forum culturel autrichien, puisque la prochaine fois, nous aurons la joie d'écouter Elfriede Jelinek, un monologue d'Elfriede Jelinek qui est formidable et qui s'appelle Animaux, qui va sortir au mois de mars et aux éditions Verdier. Donc c'est un grand bonheur. Et donc je remercie aussi le Forum culturel autrichien. Je vous remercie tous. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Peut-être, mais peut-être tout à l'heure, je vous le dirai. Voilà, alors je laisse la parole à François Taillandier, que vous connaissez, qui est un bel auteur et qui adore François Mauriac et qui va nous le présenter. Et ensuite, il y aura la lecture par François Négret. Merci.
On travaille. Alors, voyons. Bonsoir. Bonsoir à tous. Lorsque j'ai eu une conversation avec mon ami Annie Roman autour des Nobel et qu'on est venu à l'idée d'évoquer Mauriac, j'ai été ravi parce que c'est un auteur. C'est bon le son, là, il n'y a pas de... Non, ça marche ? Bon, d'accord. Voilà, donc j'étais ravi, c'est un auteur qui compte beaucoup pour moi, qui m'intéresse depuis longtemps, et en même temps perplexe parce que c'est énorme. Il y a le François Mauriac romancier, dont l'œuvre est très importante, complexe. Il y a le François Mauriac journaliste, l'homme du célèbre bloc-notes du Figaro, qui est en soi une œuvre considérable. Il y a, à travers le journaliste et à travers le romancier, il y a l'homme d'engagement, d'engagement chrétien notamment, un chrétien d'ailleurs toujours un peu en conflit ou en délicatesse, si je puis dire, avec son univers. Bref, il y a Mauriac politique, etc. Enfin bon, c'est beaucoup de choses, François Mauriac. Alors, je me suis dit, que faire, d'autant que je ne veux pas vous assommer pendant 2 heures, et en plus, je ne suis peut-être pas très qualifié. Donc, je me suis dit, que faire. Et j'ai pensé à son dernier roman qu'il a publié donc un an à peu près avant sa mort, Un adolescent d'autrefois. Et je me suis dit, bon, bah, finalement, je vais essayer d'évoquer Mauriac, pas trop longuement, à travers cette œuvre ultime. D'une part, parce que je crois que parmi tous ces romans, c'est peut-être un de ceux qui n'a pas été tellement lu, ou assez peu. Je veux dire par là que quelques œuvres de Mauriac, telles que Thérèse d'Esquerou, La pharisienne, Génitrix, sont des romans qui sont des classiques de la littérature du XXe siècle. Celui-là est peut-être un peu moins commenté, il me semble, première vue. Et puis, donc c'est plus facile pour moi, parce que ça m'évite de me casser la figure. D'autre part, quand c'est une dernière œuvre, on a toujours le réflexe de se dire, enfin de la considérer comme un peu testamentaire. C'est peut-être illusoire d'ailleurs, parce que en réalité, Mauriac, à 84 ans, projetait d'écrire encore 2 autres romans après celui-là. Il avait entrepris une suite, etc. Mais bon, comme c'est le dernier livre et qu'il achève et publie un an avant sa mort, on a tendance à se dire c'est peut-être la dernière chose qu'il voulait dire, qu'il voulait nous dire, qu'il voulait exprimer. Et donc il y a une curiosité pour ça. Alors, donc oui, ce roman, il le publie en 1969. Il a 84 ans, je vous l'ai dit. Et la première chose, moi, qui m'intrigue ou qui m'intéresse, c'est le titre. C'est un titre extrêmement modeste, je trouve. Un adolescent d'autrefois. Il y a des titres de Mauriac qui sont quand même beaucoup plus... qui impliquent ou semblent signifier une ambition ou une portée. Hein. Quand on intitule un roman La Pharisienne, ou Génitrix, ou L'Enfant chargé de chaînes, on se dit, oulala, ça va être du lourd, comme on dit en français moderne. Hein. Et là, c'est très modeste, un adolescent d'autrefois. Mauriac n'a pas l'air de vouloir dire grand-chose. Voilà. Sauf que, bien entendu, il faut regarder le contexte dans lequel le romancier publie cela. Et on ne peut pas éviter, évidemment, d'y voir une sorte de réponse ou de renvoi à son époque, puisque c'est donc moins d'un an après les événements de mai juin 68. Hein. Et je crois que pour commencer, il faut se demander ce que c'était. Bon, on a, par chance, ce fameux bloc-notes où l'on sait, où Mauriac commente l'évolution de la société, l'évolution du monde, la politique, etc. Donc, qui est, à mon sens, quelque chose de merveilleux. Et donc, on peut savoir comment il réagit aux événements de mai-juin 68. Il réagit en homme de sa culture, de sa condition, de sa génération. C'est un vieux romancier catholique, gaulliste, académicien, prix Nobel par conséquent, parce que, sinon on ne serait pas là. Et il est évidemment consterné par les événements de mai 68. Pour lui, dans son regard, il l'écrit très, très clairement, ces événements compromettent ce qu'il estime, lui, être l'œuvre du général de Gaulle pour la France, n'est-ce pas ? On ne saura pas discuter, je ne suis pas là pour avoir des jugements politiques là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence d'un certain nombre d'autres commentateurs, quand il s'agit du mouvement de la jeunesse, Mauriac s'interroge. C'est un homme qui s'interroge. C'est pour ça que je l'aime, c'est que c'est quelqu'un qui se pose des questions. Il a assisté depuis les années 60, il a vu les nouvelles mentalités qui surgissaient dans la nouvelle génération. Il y a un article célèbre où il commente le fameux concert historique du jeune Johnny Hallyday à la Bastille qui tourne à l'émeute. Enfin, c'est un truc énorme, on n'a jamais vu ça. Et on voit Mauriac effaré, presque effrayé, mais en même temps, se demande qu'est-ce qu'il se passe dans cette jeunesse-là. Voilà. Et en mai 68, c'est pareil. Il y a des mots très durs de Mauriac qui déplore ce mouvement, qui ne peut pas accepter ça, mais qui en même temps se dit, oui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils expriment. Voilà. Et donc, un an après, il publie ça, Un adolescent d'autrefois. Alors j'aime ça parce qu'on a cette impression que quelqu'un dit, voilà, moi, vieux romancier un peu officiel, grande figure, n'est-ce pas, de la littérature et du débat public, voilà, je vais vous dire, Un adolescent d'autrefois, qu'est-ce que c'était. Alors, c'est troublant parce qu'après, donc, on se plonge dans le livre, on se dit, on va peut-être avoir affaire à un vieil écrivain qui se réfugie dans la nostalgie d'un passé, qui nous dit, oh, mais avant, c'était pas comme ça, hein, et puis on redoute de voir venir le fameux thème passéiste, avant c'était bien mieux, ça marchait mieux, tout était mieux, et non. Quand on lit le livre, on n'est pas du tout dans un livre de nostalgie ou un livre qui tendrait à condamner le présent au nom d'un passé plus ou moins idéalisé. On n'est pas là du tout. Alors Un adolescent d'autrefois, ça peut aussi évoquer l'idée d'un roman un peu, je dirais pas sociologique, mais qui se proposerait de portraiturer ce qu'a pu être la vie de la jeunesse dans une autre époque. Eh bien non, on n'est pas là-dedans non plus, parce que ce que va nous raconter le romancier est très particulier. C'est pas du tout... Son adolescent d'autrefois n'est pas un type littéraire. Au sens où, par exemple, Thérèse d'Esquerou peut apparaître comme incarnation d'une certaine condition de la femme, dans certains milieux, etc. Là, non, il n'y a pas de visée d'ensemble. Je vais y venir un peu, mais ce qu'il nous raconte est tellement particulier que ça n'a pas de portée, si on peut dire. Ça n'a pas vraiment... Ça ne se prétend pas exemplaire ou démonstratif de quoi que ce soit. Alors on pourrait croire aussi qu'il va faire un roman un peu autobiographique avec ses propres souvenirs. Et pour ce que l'on sait, et on connaît assez bien la jeunesse et la biographie de François Mauriac, ce qui intervient dans ce livre, bon, à certains égards, emprunte à sa propre enfance et au milieu de sa jeunesse, mais n'est pas du tout autobiographique. L'histoire qui survient dans ces pages n'a rien à voir avec quoi que ce soit qu'il aurait lui-même vécu. Voilà, autrement dit, c'est un roman que je trouve intéressant parce qu'il tourne le dos à ce qu'il a l'air d'annoncer. Alors on se plonge dedans. On se plonge dedans en disant, de quoi veut-il nous parler ? De quoi parle ce roman qui ne, qui ne semble rien vouloir prouver. Alors là, voici venu un moment difficile pour moi, celui de vous faire un aveu. C'est que j'ai lu ce roman trois fois dans ma vie et je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite, je vais essayer de vous en parler, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que c'est que ce livre-là. Mais c'est pour ça qu'il m'intéresse, parce qu'il y a des ouvrages comme ça, je l'ai relu trois fois au total, dont la dernière fois récemment, là, pour préparer cette rencontre. Il y a des œuvres comme ça qui vous donnent du fil à retordre. On se dit, mais où il veut en venir? Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi? C'est quoi? Et ce qu'il me raconte, c'est tout à fait sidérant. Alors, on va essayer de, sans trop rentrer dans les détails, d'évoquer ce roman qui comporte beaucoup de choses. Alors, il y a un héros et narrateur, hein, c'est écrit à la première personne. Voilà, donc c'est un jeune homme qui s'appelle Alain Gajac, qui appartient à la grande bourgeoisie bordelaise du début du XXe siècle. Jusque-là, pas de surprise, parce qu'avec Mauriac, en général, on se retrouve toujours dans la bourgeoisie bordelaise du début du XXe siècle. Donc ça, jusque-là, ça va, quoi. Il est orphelin de père, il vit avec une mère à la Mauriac, comme d'habitude, c'est-à-dire un peu dominatrice, un peu une figure génitrix, quoi. Mauriac en est toujours là, il y a toujours cette figure d'une mère dominante, mystérieuse et un peu inquiétante, voilà. Alors il faut dire que ce jeune Alain, donc il y a 3000 hectares de forêt derrière, tout ça, on est vraiment dans les milieux favorisés, c'est un peu l'intellectuel de la famille, il a un frère, mais le frère va à la chasse, s'occupe plutôt de choses comme ça. Lui, c'est le jeune intellectuel de la famille, c'est un peu le double. Jusque-là, on est dans le double de Mauriac, d'une certaine façon. Il lit des livres, il s'intéresse beaucoup à la religion. Alors, c'est à la fois un chrétien très scrupuleux, ce jeune homme. Quand il explique comment et pourquoi il doit communier, oulala, on sent que c'est vraiment des affaires très graves et que ça nécessite beaucoup de réflexion. Et en même temps, c'est un contestataire. Alors là, peut-être on peut trouver un écho entre les années 60, où Mauriac écrit, et l'époque du début du XXe siècle, où l'Église se confronte avec les évolutions du modernisme, avec le christianisme social, etc. Et où Mauriac, lui, à l'époque, d'ailleurs, est plutôt un moderniste lui-même. Des choses très, très dures. Le romancier catholique Mauriac écrit dans ce livre des choses très, très, très dures contre son milieu catholique. Je n'ai recueilli qu'une citation. Je suis très gêné avec ce livre parce qu'il y a tellement de choses dedans qu'on pourrait en parler pendant 3 heures. Mais bon. Il a un ami, un copain avec qui il discute souvent, qui s'appelle Donzac. Alors tous les deux ont ces discussions de jeunes gens passionnés par des questions d'idées, etc., de théologie. Une certaine idée que Donzac m'a rendue claire, c'est que les chrétiens qui nous ont élevés prennent en tout le contre-pied de l'évangile, que de chaque béatitude du serment sur la montagne, ils ont fait une malédiction, qu'ils ne sont pas doux, qu'ils ne sont pas seulement injustes, mais qu'ils exècrent la justice. Voilà comment un romancier catholique de 84 ans parle du christianisme, du catholicisme de son enfance, n'est-ce pas? Alors il n'y a pas que ça dans le livre. De temps en temps, comme ça, il se met à partir dans des considérations sur l'Église, sur le catholicisme, parce qu'évidemment, ça joue beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Donc ce jeune bourgeois du Bordelais a lié une espèce d'amitié bizarre, j'hésite à dire amitié, mais de toute façon, dans ce roman, les rapports entre les personnages sont à peu près incompréhensibles aussi, donc tout va bien. Il y a un certain Simon. Simon, c'est le fils du métayer, enfin de l'intendant du domaine, n'est-ce pas? Donc c'est une classe inférieure, n'est-ce pas? On n'est plus dans le même monde. Enfin, ces deux jeunes gens se parlent. Alors le fils du métayer, lui, on l'a envoyé au séminaire. Non seulement il n'est que le fils du métayer, non seulement il est séminariste, mais en prime, il est affreux. Le romancier catholique Mauriac, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis moi, interférence, je ne sais pas. Le romancier catholique Mauriac est d'une méchanceté avec ce personnage qui est atroce. Voilà. Ce Simon, fils de métayer, qui est donc de condition inférieure, en plus, car un malheur n'arrive jamais seul, se trouve avoir un doigt de trop à chaque main. et un autre doigt de trop à chaque pied. Non, mais c'est, voilà ce que nous invente Mauriac, vous voyez. L'imagination atroce de Mauriac. Voilà. Et alors, on ne sait pas bien quels sont les rapports entre ces deux jeunes gens. C'est un peu bizarre. Ils sont mauvais, en plus. Enfin, c'est parfait. En vérité, ce n'est pas tant le fumet de Simon qui me soulève le cœur que ce sixième petit doigt qu'il a à chaque main. Cet appendice qui tremblote. Bon. Et ça continue, parce qu'il y a aussi le pouls. Figurez-vous que la maman donc, du jeune héros a décidé par la suite de le marier avec l'héritière d'une propriété voisine, de façon à pouvoir regrouper les terres, bien entendu, par la suite. Voilà, et c'est une fille très jeune, elle a 10-12 ans au moment où l'histoire commence, alors on ne peut pas les marier tout de suite. Et Alain Gajac, donc notre héros, est horrifié par l'idée de ce mariage parce qu'il trouve que cette petite fille est très laide. Il l'appelle le Pou. C'est très gentil pour un jeune bourgeois catholique qui va à la messe tous les dimanches, qui communie et qui se fait un idéal de la charité chrétienne, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, puis c'est pas fini, parce que ce roman est très très bizarre. Notre bonhomme s'éprend d'une jeune femme qui travaille dans une librairie à Bordeaux. Elle s'appelle Marie. Mais alors là, enfin bon, apparemment, parce qu'encore une fois, on ne comprend pas très bien les rapports entre les personnages dans ce roman, mais enfin, apparemment, ils sont très attirés l'un par l'autre, mais Marie comprend tout de suite qu'elle ne pourra jamais l'épouser, parce qu'elle n'est pas du bon milieu, parce qu'en plus, elle a un père qui s'est pendu après avoir commis une escroquerie qui s'est découverte, et donc c'est fini, elle ne pourra pas épouser l'héritier Gajac, c'est même pas pensable. Voilà. Et en plus, pour obtenir le boulot qu'elle a dans cette librairie de Bordeaux, elle l'a obtenu par un ami de sa famille et elle a été obligée de coucher avec l'ami de la famille. Non, mais voilà ce que raconte Mauriac. Des charmantes histoires, n'est-ce pas ? Il a fallu, c'est elle qui parle, il a fallu à la fin que je le paye. Sous-entendu, enfin, en couchant avec lui. Quoi. Il me harcelait et ma mère fermait les yeux. Voilà. Alors, tout ce roman, alors il va être l'amant de Marie à un moment, mais elle va comprendre qu'elle ne pourra jamais être sa femme, qu'il faut qu'elle s'efface, n'est-ce pas ? Voilà. Et le Pou, pendant ce temps-là, s'est aperçu que Gajac a été l'amant de Marie. Hein. Voilà. Tout ça pour vous dire, enfin, je pourrais, il y en a plein de choses comme ça dans ce livre. C'est très noir, c'est très 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 sombre. Il y a des choses qu'on nous a à peine répétées. Ce livre, il n'y a pas mieux qu'un romancier catholique pour être déchaîné, pour être bizarre. Quoi. Ça, c'est vrai depuis Barbet d'Aurevilly, depuis Bernanos, depuis Blois, tout ça. Et il y a des choses incroyables. Par exemple, un jeune homme de cette époque, un adolescent d'autrefois, il y a une chose qu'il craint par-dessus tout. Vous savez, c'était très connu dans la société au début du XXe siècle, c'est la syphilis. Ben, c'était une terreur de l'époque. C'est comme le sida aujourd'hui, à peu près. Voilà. Et ce jeune homme est très marqué parce qu'un jour, à la foire de Bordeaux, il y a une foire, place des Quinconces, à cette époque-là, paraît-il, et dans les baraquements de foire où on voit diverses curiosités, vous savez ce qu'il a vu ? J'ose à peine vous le répéter, là, publiquement, dans cette enceinte, il a vu la verge d'un nègre rongé par la syphilis. Voilà. Et Mauriac, peut-être, prend ça dans des souvenirs, je ne sais pas. C'est pour vous dire le climat de ce roman. Tout est vaguement horrible. Quoi. Il a des discussions, là je ne résiste pas, j'espère que je ne suis pas trop long, il faudra me faire des signaux. Hein. Il a des discussions avec sa mère, à la page 105 du roman, n'est-ce pas ? Nous avons une discussion extrêmement intéressante sur l'amour charnel. Il discute de ça avec sa maman. Hein. Et alors, voilà le genre de choses. Je ne voudrais pas anticiper sur la lecture que va faire notre ami, mais bon, quand même. Voyons. C'est lui qui parle, hein. Il parle de sa mère. Elle a toujours été persuadée que ce que j'appelle l'amour physique n'existe pas pour les êtres d'une certaine race dont nous sommes, elle et moi, que c'est une invention des romanciers, qu'il est un devoir exigé de la femme par Dieu pour la propagation de l'espèce et comme remède à la bestialité des hommes. Elle ne m'a pas caché que c'est ce qui la déroute dans la création. Mais tu es mon fils, ajouta-t-elle. Et je te connais, et je sais bien que tu auras le même dégoût de ces choses. Voilà le genre de discussion qu'il a au soir à la veillée. Non, je ne voudrais pas avoir l'air de me moquer. C'est un roman hallucinant. C'est tout simplement un roman hallucinant. Mais pourquoi nous raconte-t-il tout ça ? Je passe sur le Pou qui finit violé et étranglé par, par, un, par un bûcheron de la forêt, enfin une sorte de vagabond qui passe par là. Bon, passons sur les détails, je ne voudrais pas être trop long. Hein. Et donc, moi, je lis ça et je me dis, c'est fascinant, c'est un univers hallucinant. Mais où veut-il en venir ? Où veut-il en venir ? Eh bien, je vous disais tout à l'heure, je ne pense pas avoir compris ce roman, mais je pense que Mauriac non plus. Et, là, du tout, j'ai l'air d'être ironique et je ne le suis pas, parce que c'est ça qui me passionne dans ce livre. Vous savez qu'il y a eu un débat assez âpre, enfin une attaque plutôt assez violente de Jean-Paul Sartre contre François Mauriac. Jean-Paul Sartre prétendait qu'il ne laissait pas la liberté à ses personnages et que Mauriac, et c'est vrai que c'est un peu son défaut dans différents romans, Mauriac a ce regard de chrétien sur ses personnages. Il nous donne toujours plus ou moins à entendre ce qu'il en pense lui. Hein. Et Sartre a commis un texte célèbre où il dit « Monsieur Mauriac n'est pas un romancier parce que finalement il est incapable de laisser la liberté à ses personnages. » Alors peut-être que ce roman est une réponse et que la façon que Mauriac a de ne pas comprendre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus riche justement dans ce dernier roman. Il y a une phrase qui m'a frappé, qui est dans le livre, où il dit que la question, pour raconter l'histoire, c'est, dit-il, de mettre à jour le point secret où la vérité de la vie, telle que nous l'expérimentons, rejoint la vérité révélée. Alors là, il semble qu'à cet endroit, Mauriac essaye un petit peu de nous dire quel est son travail, où est-ce qu'il veut en venir. Mais cette phrase est confuse. Mettre à jour le point secret où la vérité de la vie telle que nous expérimentons rejoint la vérité révélée, c'est quand même pas très évident à se figurer tout de suite. Et alors, j'ai donc cherché, parce que dans son bloc-notes, Mauriac parle de ce roman, et il nous avoue un petit peu, sa propre perplexité. Voilà. Je suis sûr depuis hier, si le Seigneur m'en laisse le temps, de finir le roman que j'ai commencé, parce que j'en ai vu tout à coup le développement, sinon la fin, que la femme que j'y avais lâchée s'est découverte sous mon regard, très différente de ce que je croyais qu'elle était. C'est un peu mystérieux, mais ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui semble un peu lui échapper dans ses personnages. Et puis, il en est question de nouveau parce qu'il évoque à un moment la publication de ce roman et les réactions, enfin, ce que disent les critiques. Et il y a un critique qui est un des rares qui ne soit pas élogieux. Ce roman a été très bien accueilli, tout le monde tressait les couronnes à François Mauriac. Et il y a le critique du Nouvel Observateur, c'était l'écrivain Jean Frostier, qui fait une remarque très intéressante. Je vais vous la retrouver, voilà. Frostier note, en effet, pas la moindre prédétermination dans ces personnages, on tomberait plutôt dans le défaut contraire, c'est-à-dire dans la pagaille. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que son roman pose la question, à quel moment domine-t-il encore ce qu'il est en train d'écrire ? Sauf que dire qu'un romancier ne domine pas ce qu'il est en train d'écrire, selon moi, ça n'est pas désigner en lui une faiblesse ou une sénilité, parce que bon, c'est vrai qu'il était plus. C'est désigner une force. On ne fait pas un roman, en effet, avec des idées préconçues et bien déterminées. Je pense que la force d'un romancier, enfin pour ceux en tout cas que j'admire, moi, c'est de se laisser aller à ses intuitions. À son univers intérieur, à ses obsessions peut-être. Et c'est là qu'on retrouve cette noirceur étrange des thèmes de Mauriac. Pourquoi il nous raconte tout ça ? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires un peu bizarres et tordues ? Voilà. Alors, j'ai quand même essayé de me faire une petite interprétation de ce livre. Parce qu'à la fin, nous retrouvons donc notre jeune héros à Paris, où il doit poursuivre ses études à la Sorbonne. Alors, subitement, toutes les choses qui pesaient sur sa vie se sont un petit peu se sont retirées. Le pouls, donc, il a fini étranglé dans un bois. Hein, comme ça, au moins, il ne sera plus obligé d'épouser puisqu'elle n'existe plus. Cette fameuse Marie, cette libraire avec qui il avait une attirance, a choisi elle-même de se retirer. Elle a choisi elle-même de ne plus insister, de disparaître un peu de sa vie. Voilà. Le pauvre séminariste qui a trop de doigts a plaqué le séminaire et on sent qu'il va végéter en tant que professeur dans une école de la banlieue de Bordeaux. Et notre jeune homme, tout neuf, tout beau, se retrouve libre à Paris. Voilà. La dernière image du roman, c'est qu'il va dîner dans un restaurant les soirs et là, il aperçoit une jeune fille qui lui sourit. Voilà. Puis le roman s'arrête là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que Mauriac a fait un roman sur la grâce injuste de la jeunesse. Ce jeune homme, depuis le début du roman, on sent qu'il exerce sur tout ce qui l'entoure une séduction et un ascendant. Il est intelligent, il est beau, il est riche, il y a tout pour lui. Et tout ce qui pourrait lui arriver de malencontreux s'écarte de lui. Il y a la phtisie aussi, j'avais parlé de la syphilis, j'ai oublié de la phtisie. Ah, la phtisie, c'est son frère qui l'attrape, ça tombe bien. Hein, comme ça, c'est pas lui. Voilà. Cette fille dont il est un peu amoureux, mais qui poserait trop de problèmes dans sa vie, s'écarte elle-même. Il est protégé de partout. Et même quand il y a crime, viol et crime, ben c'est pas lui qui l'a commis. Il y a une scène atroce. Il y a une scène atroce. J'en reviens à l'assassinat de cette petite cette adolescente qu'on lui a destinée pour femme. Elle se baigne. Il y a un endroit dans la forêt où il y a une rivière. Et elle se baigne et il la surprend. Là, il la regarde. Il la regarde. Elle se baigne. Elle sort à moitié nue de l'eau. Il la regarde et elle a peur. Elle aperçoit qu'il y a quelqu'un qui la regarde. Elle ne le reconnaît pas. Elle fuit, et c'est là qu'elle est violée par cette espèce d'homme des bois. Là. Bon. C'est-à-dire que même le crime, il y a quelqu'un d'autre qui le prend sur lui. Voilà. Alors que la scène est quand même très troublante. Quoi. On sent qu'il a subitement peut-être une espèce d'attirance trouble, ambiguë. Bon. Et ben, s'il y a crime, c'est encore quelqu'un d'autre qui le commet. Voilà. Mauriac nous parle d'une espèce de grâce injuste dont cet être, il est protégé de tout, du début à la fin. Quoi. Il est bénéficiaire, il est protégé. C'est les autres qui prendront ce qu'il y a à prendre d'une certaine façon, qui s'éloigneront pour lui, qui se sacrifieront pour lui. Je trouve, au total, donc, j'espère avoir été un peu clair, que c'est une histoire atroce. Voilà, le vieux Mauriac de 84 ans... nous raconte quelque chose qui n'a l'air de rien, comme ça, on se demande un peu. Et si l'on essaye de l'analyser, c'est un monde effroyablement cruel. Je suis sidéré par ce romancier vieillissant, avec, comme je vous le disais au début, ce caractère officiel qu'il avait, n'est-ce pas ? Moi, je me souviens, enfin, je n'étais pas bien vieux quand Mauriac était encore de ce monde, j'avais 15 ans, mais enfin, et je me souviens un petit peu de cette époque, ça passait pour... le prototype de l'écrivain bourgeois institutionnel. Quoi. C'était une figure officielle de la France gaulienne. Voilà ce qu'il vous raconte. Il raconte quelque chose d'infiniment cruel. Et encore une fois, on sent qu'il le maîtrise pas. Il ne sait pas bien ce qu'il veut raconter, en fin de compte. J'ai essayé d'interpréter ce roman, comme je viens de vous le dire, sur cette idée d'une grâce injuste qui est donnée à un être et qui est refusée aux autres. C'est peut-être ça. C'est peut-être par là que ça se passe. À vrai dire, je ne suis pas sûr de ne m'être pas complètement trompé. Voilà. Et ce que je voudrais dire, voilà, c'est l'idée vraiment à laquelle je veux en venir, c'est, et qui me frappe moi dans cette œuvre, c'est justement le fait que le romancier s'abandonne à autre chose qu'à ses idées. On ne fait pas des romans en posant d'abord des idées et en y faisant correspondre les personnages. Faire des romans en s'abandonnant. Je voudrais citer d'ailleurs quelque chose que me disait mon vieux maître littéraire Jean Dutour, qui est d'ailleurs mort il y a un an tout juste, et j'en profite pour saluer sa mémoire. Il disait toujours, pour écrire des romans, il faut être un peu myope. Voilà. Parce que le roman se fait avec ça, avec cet univers sombre, obsessionnel, avec ses souvenirs d'enfance, avec sa mémoire, avec des choses étranges qui traversent le vieux Mauriac, et il laisse sa main courir sur le papier, et puis voilà, ça donne ça. Et c'est le roman lui-même qui trouve, peut-être, sa propre cohérence. Et je crois que c'est, pour moi, un exemple de ce que signifie l'œuvre d'art. L'artiste, je crois, n'ajoute pas au monde du discours ou du commentaire, il ajoute de la présence. Il ajoute une présence, il ajoute une énigme. Et pour moi, cette œuvre-là, par exemple, fait partie des œuvres qui ont cette présence. Ce qui me ramène à mon point de départ, quand je vous disais, je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Je ne suis pas sûr de l'avoir compris, mais je l'ai lu 3 fois, et peut-être que je le relirai encore un jour, parce qu'il y a une énigme. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on me montre là ? C'est aussi énigmatique que le réel lui-même. Voilà. L'œuvre ajoute au réel. Elle ne le commande pas, elle lui ajoute. Et d'ailleurs, et je vais en terminer là-dessus, j'espère n'avoir pas outrepassé trop le temps qui m'était imparti, j'ai gardé pour la fin ce que Mauriac lui-même a marqué au début de son roman. J'ai fait un peu exprès de le garder pour la fin parce que je trouve que ça dit tout, et ça dit en tout cas ce qui me fascine. En exergue à ce roman, Mauriac a cité des mots de Franz Kafka, je pense que c'est dans le journal de Franz Kafka, je n'ai pas revérifié la référence exacte, mais enfin c'est manifestement le journal de Kafka. Et il a voulu citer ces mots. Et comme juste après j'aurai fini, je vous demande de bien les écouter, on va les lire doucement parce que je les trouve admirables. Kafka nous dit « J'écris autrement que je ne parle, je parle autrement que je ne pense, je pense autrement que je ne devrais penser, et ainsi jusqu'au plus profond de l'obscurité. » Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci. Mais ce dont je n'ai pas parlé, c'est de la musique de François Mauriac, qui est admirable, mais ça, je sais que c'est pas à moi de pouvoir, c'est pas moi qui peux le faire, mais je pense que nous allons entendre la musique de Mauriac maintenant.
Bonsoir. J'écris autrement que je ne parle. Je parle autrement que je ne pense. Je pense autrement que je ne devrais penser. Et ainsi jusqu'au plus profond de l'obscurité. Kafka. Il lisait son bréviaire, assis près du confessionnal. Il continua de lire quelques instants, puis il me demanda si j'étais prêt, entra dans sa niche, décrocha l'étole. J'entendis glisser la planchette et vis son énorme oreille. Je lui dis que je ne m'étais pas confessé depuis le 15 août, expédiai le confiteor et déballai recto tono mon petit paquet habituel qui n'avait guère changé depuis ma première confession. Je m'accuse d'avoir été gourmand, menteur, désobéissant, paresseux, d'avoir mal fait mes prières, mal entendu la messe, d'avoir été orgueilleux, médisant. C'était tout. Il avait l'air déçu. Oui, je croyais bien que c'était tout. Tu es sûr que rien d'autre ne t'inquiète ? Quand ce ne serait que des pensées, je demandais, quelles pensées ? Il n'insista pas. Il se méfiait du monstre que j'étais, mais qui pouvait être aussi bien un monstre d'innocence. Tu as toujours fait des confessions sincères. À ce moment, le démon entra en moi et me souffla de répondre, non, mon père. Comment ? J'espère qu'il ne s'agissait de rien de grave. Je ne sais pas. Peut-être de ce qu'il y a de plus grave. Mon pauvre enfant, ta mère, tes maîtres, moi-même, nous t'avons assez mis en garde contre tous les manquements à la sainte vertu. C'était la pureté qui l'appelait ainsi. Je protestais que je n'avais rien de grave à me reprocher sur cet article. C'était vrai à ce moment-là. L'innocent petit garçon que j'étais encore il y a 3 ans. Pourtant, tu me dis qu'il s'agit de ce qu'il y a de plus grave. Qu'est-ce que ça signifie ? Si c'est grave ou non, vous en jugerez vous-même. Voilà, je suis idolâtre. Idolâtre, qu'est-ce que tu me racontes ? Ce que j'adore à la lettre, je n'ose vous le dire, je rends un culte secret. Vous connaissez le gros chêne dans le parc ? Qui n'est pas tellement gros, dit le curé, pour m'obliger, j'imagine, à reprendre pied dans ce monde rassurant où les choses se pèsent et se mesurent. Pour moi, il est Dieu, oui, depuis l'âge de raison, je n'ai jamais cessé de le traiter comme tel, de l'adorer. Ouais, ouais, tu es un poète, nous le savons. Il prononçait poète. Il n'y a pas de mal à ça. Je savais bien, mon père, que vous ne me croiriez pas. C'est ce qui m'a retenu jusqu'à aujourd'hui de confesser ce péché, la certitude que je ne serais pas cru même de vous. Mais comment vous faire entendre que je suis l'inventeur d'une liturgie en l'honneur du gros chêne, que je lui offre des sacrifices ? Allons, voyons, c'est de la poésie permise, mon pauvre drôle. Qu'est-ce que tu vas chercher ? À moins que tu ne veuilles te payer ma tête, ça alors ce serait un péché grave. On ne se moque pas de Dieu. Je ne me moque pas de vous, mais je me rends compte que vous ne pouvez pas me croire. Tous les poètes, même chrétiens, adorent la nature, c'est permis. Ce que je pratique n'a rien à voir avec les effusions de Lamartine ou de Hugo. Bien sûr, tous les arbres pour moi sont vivants et divins, surtout les pins du parc. Je les préfère aux hommes, ajoutai-je, en proie à une exaltation à la fois dirigée et sincère, à laquelle je m'abandonnais avec délice. Oui, les hommes me faisaient peur déjà. Même les futurs hommes à qui j'ai eu affaire au collège, nos maîtres religieux, même les pires, ne me faisaient pas vraiment peur parce qu'ils sont tenus en laisse par la dévotion, par la règle. Mais mes camarades, ils étaient déjà capables de tout. Je me souviens d'avoir passé toute une récréation enfermée dans les cabinets, tant j'avais peur de la balle aux chasseurs lancée contre moi à bout portant. Voyons, Alain, revenons aux choses sérieuses. Pourquoi, demandai-je, avec une angoisse qui n'était pas jouée, consciente pourtant et jouissant d'elle-même, pourquoi m'interdisez-vous le pardon en refusant de prendre au sérieux l'aveu que je vous fais ? Le curé pétrissait sa figure d'un geste qui lui était familier, comme si elle eût été en terre glaise. Il me demanda soudain : « Tu adores tous les arbres et pas seulement le gros chêne ?»« Non, tous sont des êtres vivants, certes, mais le gros chêne, seul, et Dieu. C'est une révélation que tu as eue ? Je voyais les hochements de sa grosse tête. Il n'osait pas se toucher le front de l'index. Non, il n'y a jamais eu de révélation. D'aussi loin que je me souvenais, j'avais adoré la terre, les arbres. Pas les animaux, c'est toujours ça de gagner. Non, pas les animaux. Mais si, en vérité, dis-je. J'avais oublié, mais tout me revient. Vous connaissez mon père, la métairie abandonnée ? Oui, à Chilet. Quand j'avais 7 ou 8 ans, je ne sais qui ou quoi m'avait mis dans l'idée que logeait dans la métairie abandonnée notre ânesse appelée Grisette, et qui avait crevé de vieillesse quelques mois plus tôt. Je m'en persuadais et j'entraînais Laurent, bien qu'il fût mon aîné, à le croire. Pour lui, ce n'était qu'un jeu, mais non pour moi. Nous nous rendions à la métairie abandonnée et nous chantions une sorte de mélopée idiote devant la porte fermée à clé. Grisette, Grisette, je te souhaite une bonne fête, je te donnerai des abricots confits. Des abricots confits à une ânesse. Le curé se forçait à rire. Il ramenait les choses à leur juste proportion. C'est parce qu'à 7 ans, je n'imaginais rien de meilleur au monde que des abricots confits. Mais j'adorais Grisette à la lettre. Je réalise tout à coup, mon père, que je commettais réellement l'abomination dont les païens chargeaient les premiers chrétiens et qui était l'adoration d'une tête d'âne. Je me tus, sincèrement accablé par ce que je venais de découvrir, et le curé se tut aussi, peut-être hésitant à me chasser du confessionnal parce que je me moquais de lui. Mais sait-on jamais ? M'étais-je moqué ? Il savait d'expérience que j'avais été un enfant scrupuleux, atteint du même mal que maman. Tout à coup, il me demanda à voix haute et d'un ton presque solennel : « Alain, crois-tu en Dieu ?»« Oh oui, mon père. » « Crois-tu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il est ressuscité ?» Je le croyais de tout mon cœur, de tout mon esprit. « Aimes-tu la Sainte Vierge ?»« Oui, je l'aime. » »« Alors ne pense plus à toutes ces sottises. Si tu as péché, je vais t'absoudre, ou plutôt, le Seigneur lui-même va t'absoudre. » Ce que fut cette messe à l'aube, ce que fut la scène entre Dubert et maman quand elle découvrit que Prudent avait mené Simon au train, à Villandreau, tout cela a été recouvert dans mon souvenir par ce qui se passa à Maltaverne quelques jours plus tard. Mais où commencer ? Je me revois sur la route un de ces soirs-là, sur la route de Joinhaut. Il me semble que la lune se levait, du moins dans mon souvenir. La lune règne. Tel était le silence qu'en passant sur le pont, j'entendais la hure courir sur les vieilles pierres. C'était un clapotis très faible et très doux. Il y avait partout à cette heure, du moins si j'en croyais les livres que j'aimais, des êtres qui se rejoignaient. Puisque le décor existait, la pièce existait. Pourquoi pas pour moi ? Parce que le décor seul nous est fourni et que pour le reste nous devons en faire les frais et que moi je n'avais pas la force à 18 ans. La force de quoi ? Ni de mourir, ni de vivre. Le crapaud que j'entendais me fit penser à ce que disait ma grand-mère peu de jours avant sa mort, une sainte femme pourtant, qu'elle aimerait mieux être un crapaud sous une pierre que de mourir. Comme si être un crapaud sous une pierre n'était pas le bonheur, comme s'il y avait d'autres bonheurs en ce monde que d'appeler doucement sa femelle et que de se rejoindre sous les pierres ou dans l'herbe enchevêtrée. Il me semble aujourd'hui que je pressentais qu'il allait se passer quelque chose cette nuit-là. Ce froid du ruisseau sur ma figure était l'haleine de la mort. Mais il se peut que je l'invente. Maman errait dans l'allée, enveloppée d'un châle. Sans doute disait-elle son chapelet. Elle m'avertit que Laurent souffrant était allé se coucher, qu'il faudrait veiller à ne pas faire de bruit. Quand je pense que tu nous obliges à partager la même chambre, comme si les chambres manquaient dans cette baraque, je me demande à quoi ça correspond dans ton esprit. Elle ne se fâcha pas, elle s'excusa. Vous n'avez jamais été séparés. C'est toi qui l'as voulu, alors que nous n'avons pas un goût commun, Laurent et moi, que nous n'avons jamais rien eu à nous dire. Maman répéta son reproche habituel. Tu trouves tout le monde bête. Va te coucher, tu me fatigues. Couvre-toi, j'ai assez d'un malade, et quand tu te coucheras, n'ouvre pas la fenêtre. Laurent tousse. Il tousse souvent la nuit, dis-je. Il tousse en dormant. « Comment le sais-tu ? Tu dors sans jamais te réveiller. » Je l'entends dans un demi-sommeil. Je suis sûr de ne pas l'inventer. Je me souviens d'avoir été impressionné moi-même par ce que je disais et que j'eus peur pour Laurent tout à coup, comme si à force de vouloir impressionner les autres, je devenais victime de mon maléfice. Mais ce ne fut qu'une angoisse de quelques secondes. Je me retrouvais dans cette ténèbre lactée d'un soir de lune, tel que je suis toujours en ces heures-là, attentif au ruissellement de la hure, à cette calme nuit murmurante, pareille à toutes les nuits, à cette même clarté qui baignera la pierre sous laquelle le corps que je fus finira de pourrir. ce temps qui coule comme la hure. Et la hure est là toujours, et sera là encore, et continuera de couler. Et c'est à hurler d'horreur. Comment font les autres? Ils n'ont pas l'air de savoir. J'étais bien résolu à ouvrir la fenêtre malgré la défense de maman. L'atmosphère était lourde. Je ne reconnaissais pas l'odeur habituelle de Laurent, son odeur canine, mais saine. La fièvre a une odeur que je sentis d'abord. Il dormait sans ronfler, mais bruyamment. Je commençais à me déshabiller quand maman entra en robe de chambre avec sa tresse, s'approcha du lit de Laurent, et après l'avoir tâté au front et au cou, sans qu'il se réveillât, me dit, à voix basse, que je ne pourrais dormir, que Laurent aurait peut-être besoin d'elle, qu'elle allait prendre mon lit et moi le sien. Cette nuit-là, je m'éveillais en pleine nuit, comme perdu dans ce lit qui n'était pas le mien et qui avait l'odeur de maman. Je sus tout de suite qu'il se passait un événement grave. Oui, je sus tout de suite que c'était grave. Des pas hâtifs retentissaient dans l'escalier que l'on ne songeait pas à étouffer. Des portes demeuraient ouvertes et battaient. Le drame était au-dessus de ma tête. Laurent ? Je me rassurais. Ce bruit de broc, de cuvette, il avait dû vomir. Je me tournais du côté du mur. À ce moment-là, maman entra, une lampe à la main qui éclairait en plein sa grande figure échevelée et grise. Elle demeura sur le seuil. « Écoute, il vaut mieux que tu saches. » Laurent avait eu un crachement de sang qui durait encore. Le docteur Dulac et le doyen étaient auprès de lui. Je fis le geste de me lever, elle me supplia de ne pas bouger jusqu'à l'aube. « Alors tu partiras chez les demoiselles à Jouanhau. Il faut fuir, fuir, » répétait-elle, hagarde. « Je ne respirerai que lorsque je te serai loin. » « Mais Laurent, il ne s'agit plus de Laurent, il s'agit de toi. » « Mais maman, Laurent, Laurent !» Elle demeurait pétrifiée, sa lampe à la main, avec cette grande mèche blanche qui lui barrait le front. Elle me regardait ardemment. « Prie pour ton pauvre frère, mais notre premier devoir, c'est de t'isoler. Dieu veuille que ce ne soit pas trop tard. Quand je pense que tu partages sa chambre à Bordeaux et à Maltaverne depuis des années, et la nuit dernière encore, tu respirais le même air que lui, mais lui, maman, mais Laurent, nous ferons l'impossible, tu penses bien. Dès demain, il y aura une consultation. Mais il faut que tu saches. » Elle hésita. « Le docteur croit. » Elle s'interrompit, recommença d'entrer dans le détail de ce qu'elle avait résolu à mon sujet. On eût dit que ce malheur me concernait seul, qu'il n'avait d'importance et de conséquences que par rapport à moi. Je partirai sans linge, sans habits, que ceux que j'aurai sur moi, toutes mes affaires étant dans la chambre contaminée. Je ne t'embrasserai même pas, et bien entendu, tu n'approcheras pas de la chambre de Laurent. D'ailleurs, il n'est pas en état. Il vaut mieux que tu ne gardes pas cette image. Pas la dernière, maman, pas la dernière. Mais oui, tu sais que je vois toujours le pire. Je vais te chercher du café. Recouche-toi. Cette fuite, sans avoir revu mon frère mourant, je ne me la pardonnerai jamais. Maman montait la garde pour m'empêcher d'entrer dans la chambre, dont l'espace d'une seconde, j'aperçus par la porte entrebâillée, à la lueur vacillante d'une veilleuse, les meubles déplacés, les linges épars. Je me laissai faire. Tout se passa comme maman l'avait décidé. À 19 ans, je me laissais porter par elle comme un nouveau-né. Dès le lendemain, je crus voir à l'œil nu chez les demoiselles, comme tombé du ciel, le microbe de la propriété. une affreuse petite fille de 10 ans, Jeannette Séris, leur héritière, qui à ce titre venait faire des séjours chez les demoiselles et recevoir les adorations des métayers. Le plus étrange est que, fille unique, ce monstre posséderait un jour l'un des plus vastes domaines de la lande et que la propriété des demoiselles s'y perdrait comme une goutte d'eau. Mais chaque hectare comptait pour ses boulimiques de la terre. Jeannette me faisait horreur. Petite fille blafarde et tavelée, on eût dit que deux de ses taches de rousseur étaient devenues phosphorescents pour tenir la place des yeux, sans sourcils ni cils. Un peigne rond maintenait en arrière du front ses quelques cheveux. On faisait venir les enfants des métayers pour jouer avec elle. « Qu'est dit ça, ma miselle ?» Il lui était soumis, comme les petits moujiques aux petits boyards du temps du servage. Le lendemain matin, au réveil, j'entendis Mademoiselle Louise crier à Mademoiselle Adila « Mais il n'a même pas 10 ans de plus qu'elle, il attendra !» Mademoiselle Adila dut répondre par le seul mouvement des lèvres, car je n'entendis rien. La sourde insista « Il ne se mariera pas sans la permission de sa mère, il attendra le temps qu'il faudra !» Oh Dieu, c'était de moi qu'il s'agissait, et de Jeannette, on en parlait dans le pays comme autrefois des fiançailles du dauphin de France et de l'infante d'Espagne. Mais cette fois, j'étais seul désigné. Laurent ne partageait plus le risque horrible. Que ce fût déjà résolu dans l'esprit de maman, je n'en doutais pas. Pour comble, la petite me recherchait cette horreur. Elle me faisait des grâces. Elle y pensait, elle aussi. Ce fut cette semaine-là que j'eus honte de mon ignorance, de mon indifférence pour tout ce qui touchait à la question sociale. Je résolus de lire Jaurès, Guède, Proudhon, Marx. Ce n'étaient que des noms pour moi. En tout cas, je savais mieux qu'eux ce qu'est la propriété. Qu'elle soit le vol, je m'en moquerais. Mais elle est ce qui avilit, ce qui dégrade. Cette situation eût pu durer indéfiniment parce que Marie s'y était elle-même adaptée, qu'elle correspondait à l'image de moi dans son cœur, ce qu'elle appelait mon côté noli me tangere. Sans le hasard d'une rencontre, mais je ne crois pas au hasard, et les coïncidences prouvent peut-être que nos vies sont réellement machinées. Bien qu'elle fût l'âme de la librairie bar, le patron et Balège n'approuvaient pas la permission qu'elle laissait à trop de clients, dont j'étais le plus fidèle, de venir tripoter des livres qu'ils n'achetaient pas. Elle se faisait d'une librairie la même image qu'Anatole France dans L'Orme du Mail, où il nous montre M. Bergeret rencontrant chaque jour ses amis chez le libraire Payot. Elle me confia qu'elle devait se battre, surtout pour moi, mais aussi pour un jeune professeur du petit lycée de Talence qui passait chez Barre tous ses après-midi du jeudi, son seul jour de liberté. C'était le jour où moi-même je n'y venais pas parce que le jeudi, la librairie était envahie. « Il est aussi sauvage que vous, il ne connaît personne. »« Mais il vous connaît, » répliquai-je avec dépit. Un dépit qui la fit sourire. Elle me crut jaloux. L'étais-je vraiment ? En tout cas, je le fus aussitôt, grâce à l'air de souffrance que j'affectais. Je croyais que l'on devient amoureux, comme on devient religieux, selon Pascal, en inclinant l'automate. Je m'inquiétais de l'âge qu'avait ce rival inconnu. Il était de plusieurs années mon aîné. Il lui faisait pitié à cause de sa totale solitude et d'une amertume sans remède que trahissaient certains de ses propos comme si depuis sa jeunesse, il avait subi déjà quelques désastres irréparables. Elle en parlait avec une complaisance accrue à mesure que j'en montrais plus de chagrin. Un chagrin dont je ne jouais plus, que je ressentais réellement et que bientôt Marie ne put plus supporter. Nous étions seuls à ce moment-là, derrière le rayon des livres d'occasion. Pour la première fois, elle me prit la main et la garda un instant dans la sienne. Quand je pense, me dit-elle, que je ne connais même pas votre prénom, j'en connais l'initiale, je l'ai vue sur votre serviette. Les prénoms qui commencent par A, vous ne vous appelez tout de même pas Arthur ou Adolphe ou Auguste, peut-être Augustin. J'approchais mes lèvres de sa petite oreille. Alain, murmurai-je comme s'il s'agissait d'un grand secret, et elle répéta Alain, comme si elle avait eu peur de l'oublier. Je lui demandais « Comment m'appeliez-vous quand vous pensiez à moi ?»« Je ne vous appelais pas. » Les jours où vous ne veniez pas, je me disais « L'ange n'est pas venu aujourd'hui. »« Ah » soupirai-je. « Vous aussi. » Je me souvins à ce moment-là de ce crépuscule à Maltaverne où Simon m'avait dit « Oh, vous, vous êtes un ange !» que j'ai pensé à lui à cet instant précis où il allait ressurgir dans ma vie. Cela m'apparaît à moi-même si étrange que je me soupçonne d'arranger à mon insu l'histoire, de la mettre en forme. Mais non, c'est bien ainsi que tout s'est passé. Je me souviens d'avoir gagné la sortie sans un adieu, suivi de Marie qui répétait à mi-voix « Qu'avez-vous ? Je n'ai pas voulu vous blesser. » « Les filles n'aiment pas les garçons angéliques, dis-je. Nous étions tout près l'un de l'autre, sur le seuil. Il n'y avait plus aucun client dans la librairie. Elles ont raison d'ailleurs. « Parce qu'il y a de mauvais anges ?» demanda Marie. Elle se forçait à rire, cherchait à dissiper ce nuage. « Non, un mauvais ange, elle l'aimerait. Elle souffrirait par lui. » « Ça dépend des filles, dit-elle. Je n'ai jamais eu de goût pour les brutes, vous savez. J'en ai toujours eu peur. Tandis que moi, je vous rassure. Tout ce que je dis vous blesse. Le petit pion de Talence qui vient chaque jeudi vous fait-il peur, lui ? Ah, si c'est à cause de lui que vous vous tourmentez. Pauvre garçon, j'ai tellement de mal et je crains de n'y pas réussir à lui dissimuler qu'il me répugne. Je me force pourtant à lui prendre la main et même à la garder dans la mienne quelques secondes et j'y ai du mérite. » C'est à ne pas croire, mais il a 6 doigts à chaque main. Ce que je ressens au contact de cette chose molle, de ce cartilage. Je m'étais appuyé contre la vitrine. Je demandais « Simon, il est à Bordeaux ?»« Vous le connaissez. Comment le connaissez-vous »« Vous savez qu'il a aussi à chaque pied un orteil de trop ?»« Eh bien Marie, je dis, dites-lui qu'un de vos clients s'appelle Alain et qu'il est un ange. » Alors vous saurez tout sur moi, sur ma mère, sur mon enfance, sur mon pays qui est aussi celui de Simon d'Hubert. Moi, je ne vous parlerai pas de lui aujourd'hui parce que je ne pourrai le faire sans vous livrer le tout de ma pauvre vie et que je n'y parviendrai pas. Je vais le laisser déblayer. Je n'aurai qu'à retoucher sa déposition à partir de ce qu'il vous aura raconté. Ça me sera moins difficile de vous introduire dans cette histoire sans intérêt pour personne. Elle murmura, sauf pour moi. Il pleuvait. Je promenais sous mon parapluie ce bonheur, cet orgueil. Je me regardais dans les vitrines. Je ne ressemblais plus à un ange, mais à un garçon qu'une fille aimait. Ce fut ce jour-là, quand elle m'eut rejoint sous le péristyle du Grand Théâtre, où je l'avais attendue à cause de la pluie, et que nous fûmes assis dans un café, au coin de la rue Esprit des Lois, dans l'odeur que je haïssais de l'absinthe, qu'elle me livra à sa manière nette, presque brutale, ce qu'elle estimait que je devais savoir à son sujet. Ce que j'étais déjà dit, qu'il ne saurait y avoir en moi aucune arrière-pensée te concernant, que je ne rêverais jamais de ce à quoi rêvent toutes les jeunes filles qui sont aimées et qui aiment. Son père, un percepteur du Médoc, je me souvenais de cette histoire, avait abandonné sa femme, joué, dilapidé plusieurs millions, et on l'avait trouvé pendu dans une grange. Que faire, que dire ? Je lui pris gauchement une main qu'elle retira, alors elle ajouta posément, Mais je n'ai pas fini. D'un ton neutre, comme elle eût déposé à la barre, après le drame. Un ami de ses parents l'avait fait entrer chez Barr. Cet ami avait l'âge de mon père, qu'il connaissait depuis l'enfance. Il nous demeura fidèle les premiers temps, mais ce fut plus fort que lui, et il fallut, à la fin, que je le paie. Il me harcela, ma mère fermait les yeux, et moi, en ces jours-là, tout m'était égal. Je n'imaginais pas ce que cela allait devenir pour moi. Je vais t'étonner. Je comprends ta mère plus que tu ne pourrais croire. Non son idolâtrie de la terre, mais son dégoût de la chair. Je te bénis, toi surtout, de ne pas ressembler à ces chiens qui m'ont harcelé. Même Balège, oui, ce bossu, il se glorifie de ses bonnes fortunes, et il en a. Elle avait appartenu à un vieil homme. Elle y avait consenti. Je n'osais pas lever les yeux vers Marie. Je demandais à voix presque basse, « Qui vous a délivré de lui ?»« L'angine de poitrine, il a eu peur de mourir. » Peut-être pleurait-elle, mais je ne voyais pas ses yeux. J'éprouvais surtout de la gêne. J'étais choqué. Je répétais avec contrainte, « Ne pleurez pas. » Je ne pleure pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce que vous venez de me dire, vous. Oh, c'était sans intention, écoute Marie, je comprends mieux maintenant pourquoi tu me préfères. Tu es une fille qui a été livrée aux bêtes, qui leur a échappé, qui en aura toujours peur désormais. Elle ne me répondit pas. Elle avait quelque chose d'autre à me dire, je le sentais. Après un silence assez long, elle se décida. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que tu es un petit chrétien. Alain, vais-je te couper de ce qui est ta vie ? Je répétais, ma vie ? Ce propos m'étonna. Non le scrupule qu'il manifestait, mais je ne sais quoi d'apprêter une certaine inflexion de voix. Je ne le démêlais pas au moment même. C'est une heure plus tard, comme je montais lentement l'escalier de la rue de Cheverus, que je fus tout entier investi, puis occupé par le trouble qu'elle avait éveillé en moi. Il ne tenait pas aux difficultés d'ordre religieux à quoi elle avait fait allusion, mais au fait qu'elle les avait invoquées, suggérées, et tout à coup sur le palier du premier, qui sentait le gaz, où je reprenais souffle, je prononçais à voix haute, elle parlait faux. L'intuition fulgurante joua tout à coup. Oh Dieu, Dieu, sur ce palier sinistre, je le voyais, j'en étais ébloui. Elle m'avait menti. Simon Dubert avait dû me voir à mon insu dans la librairie et il avait dit à Marie, « Je le connais, votre pauvre étudiant, je le connais, votre ange. » Ils étaient de mèche. Après tout, elle n'avait aucune raison de me savoir atteint du mal des garçons qui croient qu'aucune femme ne peut les aimer pour eux-mêmes. M'étais-je jamais confié à Simon sur ce sujet ? Non. Oui, je me rappelle à propos de la foire de Bordeaux, de ses pièces anatomiques de cire. Je m'étais confié. Il le lui a répété. Et elle aussitôt a mis l'accent sur son propre dégoût. Elle joue à coup sûr contre moi. Je me répétais. Tu n'as aucune preuve, tu es victime de ce conteur arabe qui habite au-dedans de toi et qui invente indéfiniment des histoires pour boucher les interstices entre les livres que tu lis, pour qu'un mur sans fissure te défende contre la vie. Mais cette fois, l'histoire que tu te racontes, c'est ta véritable histoire. Vraie ou inventée? Quelle est la part de l'imaginaire? À quel endroit précis recoupe-t-il le réel ? Il pleut sur les chaînes de la chicane. Ce chuchotement indéfini ajoute encore à l'isolement de cette lande perdue. J'ai le refuge de la minuscule salle à manger construite en bois de pin et revêtue de fougères, de sorte qu'elle se confond avec la cabane et n'effraie pas les palombes. Elle est pourvue d'une cheminée où Laurent venait faire cuire les alouettes qu'il avait tirées dans le champ de Jouanhaut. Il n'aimait pas la chasse à la palombe, qui oblige de rester immobile. Voilà 4 années qu'il ne bouge plus, le pauvre petit, que ce qui reste de lui ne bouge plus. Ce qui reste de ce jeune être plein de sang. Rien n'importe à rien. Cette évidence ne sert guère contre l'angoisse quand c'est un fait précis qui la suscite. Un malheur qui est là, accompli, irréparable, qu'il va falloir porter durant ces 60 ans que je m'accorde de vie. Mais cette angoisse, je vais tâcher de la dominer en reprenant dans ce cahier l'histoire où je l'avais laissée, en la revivant minute par minute, jusqu'à ce dernier coup qui m'a frappé. Je dévalais le chemin de sable qui descend vers le moulin et m'aperçus avec dépit qu'un baigneur solitaire s'ébattait dans l'étang. L'eau est si froide qu'on ne s'y attarde guère. Je décidai donc d'attendre qu'il ait fait place nette et me glissai dans les fougères d'où je pouvais, invisible, ne pas le perdre des yeux. Il y a un plaisir inavouable, mais que j'avoue, à voir quelqu'un qui ne nous voit pas, qui ne sait pas que nous sommes là, qui se croit seul. Au vrai, c'est un plaisir de Dieu. Je m'aperçus très vite que mon baigneur était une baigneuse, en vérité si gracile, aux jambes si longues, qu'on aurait pu s'y tromper. Plus tout à fait une petite fille. Avec les filles, on ne sait jamais. Les filles ne sont jamais des enfants. L'enfance leur est interdite. La preuve que celle-là était une fillette, c'est qu'elle se baignait en maillot comme un garçon. Jamais une fille du bourg ne se le serait permis. Elle sortit de l'eau et s'assit sur le bord, au soleil, pour se sécher, regarda autour d'elle. C'était la solitude et le silence du milieu du jour. Elle fit glisser d'un geste rapide le haut du maillot, dénuda chastement ses épaules maigrichonnes et une gorge à peine née. Ce que je ressentis alors, ce ne fut pas ce que Donzac va croire, un plaisir faunesque. Non, les petites filles ne me donnent pas encore de mauvaises pensées. Je crus que le poing qui me serrait la gorge s'ouvrait tout à coup. Si j'avais su, ce fut comme si quelqu'un apposait ses mains sur mes yeux aveugles et les retirait, et tout à coup je voyais. Un seul être comme celui-là était une merveille. Et il y en avait des millions de par le monde, ce monde que je ne connaissais pas et que rien, ni personne d'ailleurs, ne m'obligerait à parcourir si je préférais demeurer dans une chambre, là où sont mes livres et où ne sont pas les autres hommes. Elle resta debout un long moment dans le soleil, la petite fille, et ce fut si peu une pensée louche qu'elle me donna que ce que j'éprouvais à la contempler, et sans doute qui ne vaut que pour moi, et que me donne toujours la vue d'un jeune corps s'il est beau, c'est l'évidence que Dieu est. Dieu existe, vous le voyez bien. De sorte que la même voix qui crie à mon oreille, « Tout est là, tout est offert, tue et mange. » Cette même voix me souffle aussi, « Mais tu peux choisir de renoncer à tout. » et de me chercher, moi, et c'est cela l'unique aventure. La petite fille avait disparu dans les fougères et en sortit, un instant après, court vêtue, pas belle, autant que j'en pus juger de loin avec son peigne rond qui lui tirait les cheveux en arrière et lui faisait un trop grand front. Mais moi qui l'avais vue dévêtue, je savais qu'elle était belle. Non pas de cette beauté fixée dans certains traits, mais qui tient à une ligne appelée à s'effacer, liée au moment d'une mue. J'avais surpris un instant entre l'aube et l'aurore, ou plutôt entre l'aurore et le matin. La merveille qui ne durera pas, elle a déjà sans être vraiment commencé. Je la laissais filer et la suivis, mais de loin. Elle marchait droite et sérieuse, comme une grande fille, et tout à coup entrait dans les fougères d'un bond de cabri, se penchait pour ramasser je ne savais quoi, repartait. À un moment, une branche morte craqua sous mon espadrille. Elle se retourna, mit sa petite main à la hauteur de ses yeux pour voir qui approchait, et tout à coup, m'avait-elle reconnu ? Elle détala, disparut à un tournant, et quand j'y parvins moi-même, elle avait dû filer à travers bois, car je ne la vis plus. Donc ce matin, après avoir bu quelques gorgées de café, je jetai un coup d'œil distrait sur la première page du journal et je me crus halluciné. Cette figure de petite fille aux cheveux tirés sur un trop grand front et qui ne souriait pas, je la reconnaissais. C'était la petite fille du moulin et au-dessous, en italique, Jeannette Séris a quitté avant-hier après-midi le domicile de son père, M. Numa Séris, et n'a pas reparu. On croit à une fugue. L'enfant y est en sujet. Elle portait un jersey rayé et des espadrilles blanches. Elle n'avait pas de bas. Ses cheveux étaient tenus par un peigne rond. Suivait l'adresse de Numa Séris, un numéro de téléphone. C'était le pouls. Avant de m'attabler et de mâcher et de remâcher tout ce que cette histoire promettait à mon angoisse, je m'attardais à cette farce que quelqu'un me faisait. C'était le pouls que j'avais vu au moulin de M. Lapeyre et trouvé adorable. Ce ne pouvait être un hasard, c'était trop bien machiné. Comme il est écrit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Oui, c'est l'ennemi qui m'a fait voir, qui me l'a fait voir adorable, mais elle m'a vu la terrifier, et elle a fui, et elle a disparu, peut-être pour toujours. J'étais l'unique témoin. Il fallait, sans plus tarder, rentrer à Maltaverne, mais j'avais rendez-vous ici à midi avec Marie et avec Simon. Je leur dirai tout, je ferai ce qu'ils me conseilleraient de faire. Après tout, ce devait être une fugue. Je ne savais pas qu'elle y fût sujette. On ne parlait jamais d'elle devant moi. Pourquoi vous moquez-vous de moi, mon Dieu ? Quelquefois, je me réveille avant l'aube. J'entends sur le pavé de bois rouler un fiacre attardé. Il me semble alors que rien ne peut plus m'arriver en ce monde, qu'il ne m'arrivera plus rien, que tout est bu, que tout est mangé, que cette nuit au balcon de Maltaverne, avec Marie qui m'aimait, c'est tout ce que j'aurais eu, et que je suis ce mendiant à qui on a déjà donné et qui n'a plus rien à attendre de personne, pas même de malheur, parce qu'en fait de malheur, j'ai reçu aussi mon dû. Le jour où cette petite fille courait devant moi, sur le chemin du moulin de M. Lapeyre, et puis un morceau de bois mort a craqué sous mon espadrille, et elle s'est retournée. Il m'est arrivé pourtant quelque chose, mais c'est si peu que je ne sais comment le noter. Hier soir, au café Weber, la vieille Jeanne d'Arc n'a pas paru. Elle doit être malade. Je ne croyais pas que la jeune viendrait. Je surveillais tout de même la porte. Elle est entrée à son heure habituelle. Elle s'est assise. Elle a étudié la carte comme si elle n'avait pas su qu'elle allait demander une assiette anglaise. Et puis elle a levé les yeux. Elle m'a regardé. Et elle a souri. François Mauriac.
Merci François Négret, merci François Taillandier. Voilà, la soirée s'achève. Je vous donne rendez-vous mardi 22 mars pour Elfried Jelinek avec la lecture de ce monologue qui s'appelle Animaux, qui a été traduit par Ornick Dieter et Patrick Demérin, qui seront là tous les deux pour nous présenter Elfried Jelinek et qui ensuite sera lu ce monologue par Nathalie Richard en français et Richard Samel en anglais, en allemand. Je suis encore dans le roman là. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci à la GDL, merci à l'hôtel de Massa et merci à vous d'être là. Au revoir.